Voilà, nous entrons ce soir donc dans une nouvelle phase du cours, puisque nous avons d'abord eu les fondements bibliques de la miséricorde avec l'ensemble de la Bible et Pierre Hadamakers, et puis Jean, Matthieu, Luc. Et puis la semaine passée, nous avions eu un petit voyage chez ceux que la Bible rencontre, qui sont les païens, les philosophes païens, donc avec cette notion de l'indulgence et de la clémence, et qui n'est pas tout à fait la miséricorde biblique, puisque le sage, n'étant pas atteint par les offenses, n'a rien à pardonner. Donc c'est pas tout à fait la vision chrétienne. Et alors maintenant, nous entrons dans les retentissements de cette miséricorde biblique à travers les âges ultérieurs, notamment dans la rencontre avec les philosophes païens, puisque saint Augustin, dont nous entendrons parler ce soir, a beaucoup dialogué avec eux et a fait un discernement chrétien sur l'apport des philosophes païens. Alors je vous présente mademoiselle Maria Agnese Giusto. Elle est née au siècle dernier, donc vous y attendiez quand même. Et elle habite une ville spéciale, une ville d'un festival, d'une course cycliste et de fleurs, la ville de San Remo, près de la frontière italo-française. En 1995, pendant ses études de doctorat en mathématiques, se pose la question clé, mais enfin, qu'est-ce que c'est la miséricorde ? Des réponses sont arrivées par sa réflexion, par la prière, et ensuite un peu ou un peu beaucoup, à sa surprise, par l'étude de ce thème biblique si important chez saint Augustin. Cela a abouti à un doctorat, achevé en 2012 à Paris, à l'École pratique des hautes études de la Sorbonne. C'est dans l'émerveillement et la joie pour les découvertes faites que ce soir elle va nous présenter ses trésors augustiniens. Pour faire cela, elle a temporairement quitté ses élèves du secondaire auxquels elle essaye d'enseigner les mathématiques et qui se réjouissent certainement, selon elle, de cette petite pause.
Voilà, merci beaucoup. Donc ce soir, on va parler d'Augustin et la miséricorde. Le titre « Miséricorde, vie et joie pour toujours » veut donner un peu le ton de cette conférence, où on va commencer par faire un petit peu connaissance avec Augustin. Sûrement, beaucoup de vous, tous probablement, le connaissent, mais sa vie est très importante pour comprendre sa pensée. Donc, on va commencer par cela, et encore avant cela, je veux vous dire... Ça bouge, ça ne bouge pas. C'est l'ordinateur qui s'est planté. Je vous le dis déjà, il y a des sites sur internet où on peut trouver facilement les textes d'Augustin. Il y a le site www.augustinus.it, et c'est italien, mais il y a en plusieurs langues les textes d'Augustin. Et puis il y a le site, c'est pareil, avec le D final, un site un peu plus scientifique allemand, où on trouve beaucoup de choses. Et puis un beau site sur Casiciacum, le lieu où Augustin avait pris un temps de retraite avant son baptême, www.casiciacum.it. Et les œuvres complètes, on peut les trouver sur le site de la Bibliothèque nationale de France ou sinon dans le site de l'abbaye Saint-Benoît de Port-Vallée en Suisse. Et, donc et là, ça peut être utile. Voyons donc Augustin, qui était. Augustin est né le 13 novembre 354 à Tagaste, donc c'était il y a quelques jours son anniversaire, et la famille est composée par sa mère, la bien connue Monique, puis son père, Patrice, et son frère, Navigius, et il y avait aussi une sœur dont nous ne connaissons pas les noms. Or, Augustin fait ses études d'abord à une quarantaine de kilomètres de sa ville, et ensuite il va à Carthage, c'est beaucoup plus loin, et c'est pour lui un peu la découverte du monde, en tous les sens. Et pour fixer les idées, les cartes, où on voit Soukaras, que c'est Tagaste, l'ancienne Tagaste, il avait étudié un peu au sud de ce lieu-là, et ensuite il est allé à Carthage, qui correspond à Tunis, en Tunisie. Et donc, pour avoir une idée là où se situait en Afrique, Augustin était africain. Donc, Augustin, très, très vivant, se pose très tôt la question du sens de la vie. Il se lance de toutes ses forces à rechercher la vérité et reste fasciné par la philosophie. Et cela après avoir lu l'Hortensius de Cicéron, une œuvre qui a été perdue. Et son désir était d'expliquer rationnellement la foi. Et dans cet essai, il s'approche des manichéens. Il n'en reste jamais pas tellement convaincu, mais grâce à leur aide, il peut aller à Rome. Il enseignait d'abord à Carthage, mais il avait des problèmes avec les élèves parce qu'ils étaient bruyants, ils n'écoutaient pas. Puis il va à Rome et ne le payait pas, donc il n'avait pas beaucoup de chance. Et il est parti ensuite à Milan, où il rencontre Ambroise, l'évêque Ambroise, qui avait une renommée de parler très bien, d'être très savant, et donc Augustin voulait tout d'abord vérifier que c'était vrai ce qu'il entendait dire de lui. Et en écoutant aussi Ambroise, Augustin, plus qu'il ne la trouve, est trouvé par la vérité, et de plus il est rejoint et vaincu par la miséricorde. C'est alors qu'il va se rendre à Casiciacum, et c'est un lieu pas trop loin de Milan, où il fait une vie communautaire avec ses amis, sa mère, son fils, et ensuite il reçoit en 387 le baptême. Et il compose ses premiers écrits, ses dialogues qui ont une saveur un peu plus philosophique, mais où on sent déjà les thèmes importants de l'Augustin qui viendra après. Ensuite, Monique, on le sait, meurt à Ostie, et puis Augustin rentre à nouveau en Afrique. À Hippone, il est ordonné prêtre en 392, et en 396, il est ordonné évêque. Donc il a affaire avec des problèmes très importants. Et en 410, il y a la prise de Rome, qui a des conséquences aussi en Afrique, parce qu'ils arrivent beaucoup de réfugiés. C'était le flux de l'autre côté, disons. Donc c'est très, très actuel. Et cet événement, qui avec la prise de Rome, signait vraiment la fin d'une période historique fondamentale, l'inspire pour écrire La Cité des Dieux, qui en gros, je dirais, une grande synthèse de la vie humaine et de l'humanité en pèlerinage vers la Jérusalem céleste. Les barbares arrivent aussi en Afrique, et pendant que les Vandales assiègent Hippone, on est le 28 août 430, Augustin meurt en se remettant à la miséricorde de Dieu. On peut se demander, mais comment était-il Augustin ? Et Augustin, on pourrait dire son motto pourrait être « Ama et podis fac »,« Aime et fais ce que tu veux ». C'est à bien comprendre parce que cet amour dont il parle est l'amour de Dieu, qui se concrétise dans l'amour du prochain, et il sous-tend tous ses discours et toutes ses actions. Donc c'est très, très engageant. Et Augustin, dans sa vie, a été un peu comme pisté par la miséricorde de Dieu, qui, fidèle, planait de loin, les ailes étendues sur lui. Et c'est une expression qu'il a dans les confessions. Et il relève que toutes ses erreurs et tous ses péchés n'ont pas réussi à empêcher la divine miséricorde de le chercher. Et Dieu a eu miséricorde d'Augustin quand son cœur était au fond de l'abîme. Donc il reconnaît qu'il a été vraiment rejoint par la miséricorde. Et c'est pas qu'il est devenu saint tout d'un coup, il se laisse encore prendre misérablement par les péchés et les imperfections, mais Dieu le libère miséricordieusement. C'est encore une allusion à ce qu'il écrit dans les confessions. Et nous avons un témoin oculaire, il y a son ami et confrère Posidius, qui nous donne une vie d'Augustin, un témoignage donc direct de sa vie. Et vous pouvez trouver le texte dans les feuilles de route. Et Augustin, étant évêque, devait s'occuper aussi de régler des différends parfois. Et Posidius se dit qu'il écoutait et jugeait des différends parfois jusqu'à l'heure du déjeuner, parfois pendant toute la journée sans manger. Et son attention était sur les mouvements des âmes des chrétiens, à ce que chacun puisse ou non grandir dans la foi et les bonnes mœurs. Donc son but était pastoral, de guider vers Dieu, vers l'amour, les autres. Et comme personne, il était très accueillant. Et il avait une joie d'inviter au repas des personnes, et il lui était plus cher au repas la lecture ou la réflexion que manger et boire. Et contre une très mauvaise habitude, il avait cette inscription: celui qui aime calomnier les absents, qu'il sache qu'il n'est pas digne de cette table. Je trouve que c'est très actuel. Même le pape François invite à ne pas faire des chiacchieres, c'est un bavardage. Voilà. Et il exhortait ainsi tous les autres à se retenir justement des bavardages superflus et nocifs. Et dans sa dernière maladie, là c'est le texte que vous avez, il fit écrire le psaume de David qui traite de la pénitence, et il fit accrocher les feuilles au mur en sorte qu'en restant au lit pendant son infirmité, il pouvait les voir et les lire. Et il pleurait continuellement avec des larmes amères. Donc il est mort vraiment dans la miséricorde, dans le désir de rencontrer cette miséricorde et de la recevoir. Or, je passe à un autre point de la feuille de route, et des éléments sur ce qu'est la miséricorde. Je vais passer vite parce que vous avez déjà entendu ces choses dans les conférences qui ont précédé. Vous savez que Hesed et Ramim sont les racines de la miséricorde dans la Bible, les mots qui sont utilisés. Eleos et Irmos, les traductions grecques. Et miséricorde, la version latine à laquelle nous nous référons en français, en italien. Et donc je passe sur la signification de Hesed, qui renvoie de toute façon à une bonté profonde et paraît dans un contexte d'alliance. Ça signifie aussi fidélité. Ramim, c'est lié à l'amour maternel, et un amour très profond qui contient dans sa racine Rehem, le sein maternel. Et donc, signifie bonté, pitié, patience, compréhension, pardon. Dans la Septante, on a cette traduction par Eleos et Octirmos. Et en latin, on a le mot misericordia. Ce mot vient de miseria plus cor, misère et cœur. Et Augustin le connaît, ça le connaît bien parce qu'il dit dans une de ses œuvres: qui ne sait en effet que la miséricorde est ainsi nommée parce qu'elle fait sentir la misère au cœur de celui qui compatit au malheur d'autrui. Et encore, le mot miséricorde signifie un cœur que la misère d'autrui rend malheureux. C'est dans la même ligne. Et puis aussi, la miséricorde de Dieu est bonté qui vient au secours. Donc on a déjà l'idée d'un secours qu'on reçoit. Et puis, dans la cité des dieux, il dit: qu'est-ce que la miséricorde, sinon une compassion de notre cœur pour la misère d'autrui, qui nous pousse à la secourir si nous le pouvons. Et ce sont toutes des bonnes définitions. Dans les psaumes, si on le lit, on trouve souvent le mot miséricorde au pluriel. Et utilisé comme ça, le mot indique les œuvres de miséricorde de Dieu envers l'homme. Il y a un autre mot, l'hémosyné en grec, l'hémosyné en latin, homone en français, et les œuvres de miséricorde, opera misericordia, et miséricorde sont les œuvres charitables envers les pauvres. Et il s'agit d'un amour qui dépasse les sentiments pour se concrétiser dans les œuvres. Bon, alors vous me direz, c'est tout ? Ben non, enfin, ce n'est que le commencement. Et même, je vous dis, revenons au commencement. Et on va partir d'une phrase d'Augustin dans les premières lignes de Confession où il dit « Tout nous a fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qui repose en toi. » Et je vous propose de relire cette phrase comme si c'était Dieu qui parle à nous. Et donc il nous dit « Je vous ai fait pour moi, et mon cœur est inquiet jusqu'à ce que vous reposiez en moi. » Alors, on peut se demander quelle est la relation entre cette inquiétude de Dieu et sa miséricorde. Et aussi, de quelle misère est-il question ? Et la grande et vraie misère de cette vie, pour Augustin, en plus de toutes les tribulations liées tout simplement à la survie et au quotidien, c'est l'éloignement de Dieu. Il n'est pas être en communion avec lui. C'est celle-ci la vraie misère de l'homme. Or, Dieu, par sa main miséricordieuse, a travaillé avec douceur et patience le cœur d'Augustin en le façonnant peu à peu. Et cette main qui recompose et recrée le cœur d'Augustin et de tout homme est la même qui, au début du monde, avait façonné l'homme à l'image de Dieu. Or, cette image de Dieu en nous est comme une marque déposée, un sceau, qui garantit notre provenance de Dieu et le fait que nous sommes précieux à ses yeux. Or, Augustin la voit sculptée dans notre âme, de même que l'image de César était sculptée sur les monnaies. Et c'est une allusion à Matthieu 22-21 où il y a l'épisode de Jésus qui était interrogé par les pharisiens qui demandaient s'il fallait ou non payer le tribut à César. Et donc il demande une monnaie pour, et puis il demande de qui est l'inscription et l'image. Et voilà qu'il sort de l'impasse et on parle de cette image de César. Cette image de Dieu fait notre beauté aux yeux de Dieu et c'est très important. C'est important au point que, pour Augustin, Dieu a compassion. Pourquoi ? Parce qu'il considère en nous son image et puis c'est seulement ensuite qu'il considère notre fragilité, nos erreurs, notre aveuglement et nous appelle. Donc, ce qu'il y a de beau dans l'homme, c'est ce qui attire la miséricorde de Dieu, pour le refaire encore plus beau, finalement. Et l'homme qui s'est converti resculpte cette image de Dieu en soi, un peu comme l'image usée de la monnaie, parce qu'à l'époque, ils étaient sculptés les images sur la monnaie, donc c'était usé, on ne voyait plus bien l'image. Et donc il la resculpte et la rend à Dieu. Et on a ce texte qui explique dans un commentaire sur le psaume 4, paragraphe 8. Et il s'agit comme d'une guérison finalement. Et Augustin invite à « Laisse-toi seulement guérir, ne repousse pas sa main, il sait ce qu'il doit faire. » Quant au Dieu qui t'a fait, il te guérira certainement et gratuitement. Cette guérison passe par ce que vous avez aussi dans la feuille de route, par ce qui est le regard miséricordieux de Dieu. Ce regard qui a touché Zachée. Le Seigneur vit Zachée, ainsi il a été vu et il vit. Mais si on ne l'avait pas vu d'abord, il n'aurait pas vu. Ainsi, pour voir, nous avons été regardés. Pour aimer, nous avons été aimés. C'est mon Dieu, sa miséricorde, qui me préviendra. Et il y a un autre regard aussi, un regard de Jésus sur Pierre, notre regard de miséricorde. Et le Seigneur regarda Pierre, c'est au moment du reniement, Et Pierre se rappela. Que signifie, il le regarda. Ce ne fut point un regard de miséricorde matérielle, mais un regard de profonde miséricorde. Le voilà lavé dans ses larmes, corrigé et tiré de l'abîme, il prêche. Si vous êtes intéressé dans ce thème de larmes de Pierre, de cette conversion qu'il a finalement, il y a un article de Martine Dulahaye sur les larmes de Pierre. Donc si vous êtes intéressé à la partie bibliographique, vous pourrez demander au père Alban Massy qui a le matériel et donc il pourra vous renseigner abondamment. Donc je passe vite sur les références. Puis il y a un autre regard, le regard magnifique que Jésus a sur la femme adultère, l'évangile de Jean 8. Il ne resta que la femme adultère avec le Seigneur, que la malade avec le médecin, que la profonde misère avec la profonde miséricorde. Or, le Seigneur, explique Augustin, ce qui l'a condamné, c'est le péché et non le pécheur. Et cela nous conduit à parler presque automatiquement de ce que peut être la relation entre miséricorde, jugement et justice. Or, Augustin a insisté souvent sur la réalité du jugement et sur sa pleine compatibilité avec le fait que Dieu soit miséricordieux. Et il parle en premier du temps de la miséricorde, c'est le temps présent, et le temps du jugement, et cela à la fin du monde. Pape François a repris ce thème du temps de la miséricorde. Et Augustin observe que nous méritons le mal, nous espérons le bien, et ce bien, le bien que nous accordera la miséricorde de celui qui nous a créés. Donc, ce que nous allons recevoir, ça vient de la miséricorde. Or, le temps de la miséricorde a été inauguré par la première venue du Christ dans le monde pour manifester sa miséricorde. Et l'homme est invité à répondre à cette miséricorde par la conversion, pour se remettre en relation avec Dieu, qui fait vraiment tout pour l'aider et le soutenir. Et dans ce tout, on compte le bienfait de la création, le temps pour vivre, l'exhortation par sa parole, par ses ministres, et par des punitions et des consolations. Augustin explique tout cela dans le commentaire sous le psaume 102. Or, à la fin des temps, il y a le jugement final, et il coïncide avec la seconde venue du Seigneur. La réalité du jugement doit alerter l'homme pour qu'il se convertisse sans tarder, pour ne pas traîner. Et pour l'homme converti, le jugement final n'est plus un épouvantail, quelque chose qui va effrayer, mais l'accomplissement de la rencontre avec la miséricorde de Dieu. Or, bien sûr, on parle de jugement, et ça vient spontané penser à la justice. Le jugement de Dieu, en effet, est lié à sa justice. Mais il n'épuise pas cette notion de justice qui est beaucoup plus large. Les relations entre miséricorde et justice se ressentent de l'évolution de la signification du mot « justice » dans les cultures grecques et bibliques. Donc nous sommes héritiers de ces deux cultures. Et Augustin soutient très souvent que Dieu est toujours juste dans toutes ses œuvres et ses actes, même si on n'en comprend pas toujours les raisons. Et il affirme avec force, la miséricorde en lui ne peut détruire la justice, non plus que la justice ne détruit la miséricorde. Or, cela, c'est cette justice divine est entendue comme le fait de justifier l'homme. C'est-à-dire rendre juste l'homme, l'ajuster à Dieu, avec une terminologie un peu plus moderne, de le mettre sur la même longueur d'onde de Dieu. Et c'est tout à fait paulinien comme façon de voir la justice. Et de cette façon, miséricorde et justice s'accordent parfaitement dans l'histoire du salut. Comment ? Les deux ont en vue le salut de l'homme. La miséricorde en pardonnant. Et la justice en justifiant. Donc nous pouvons voir miséricorde et justice comme les deux faces de la même monnaie, et elles sont personnifiées dans le Christ, qui est justice et miséricorde de Dieu. Or, en guise de petite pause de réflexion, il y a un texte que je vais passer lire, qui résume un peu, vous l'avez sous la feuille de route, et qui résume un peu cette première partie. Et il dit « Qui me donnera de me reposer en toi ? Qui te fera descendre en mon cœur ? Quand trouverai-je l'oubli de mes maux, dans l'ivresse de ta présence, dans le charme de tes embrassements, ô mon seul bien ? Que mets-tu, par pitié, délie ma langue ? Que te suis-je moi-même pour que tu m'ordonnes de t'aimer ? Et si je désobéis, que ta colère s'allume contre moi et me menace de grandes misères ? En est-ce donc une petite que de ne t'aimer pas ? Ah, dis-moi, au nom de tes miséricordes, Seigneur mon Dieu, dis-moi ce que tu m'es. Dis à mon âme, je suis ton salut. Parle haut, que je t'entende. L'oreille de mon cœur est devant toi, Seigneur, ouvre-la, et dis à mon âme, je suis ton salut. Que je cours après cette voix, et que je m'attache à toi. Ne me voile pas ta face. Que je meure pour l'avoir, que je meure pour vivre de sa vie. » C'est tout début de confession. Or, ce qui commence à s'éclairer est que, pour Augustin, la miséricorde est liée à la révélation de Dieu à l'homme. Et vous vous souvenez certainement de l'épisode de la révélation de Dieu à Moïse, dans le buisson ardent, quand il révèle son nom. Je suis celui qui suis, et puis il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et Augustin commente plusieurs fois cet aspect, et il parle du nom d'éternité de Dieu, je suis celui qui suis. Et ce nom indique sa substance, et il est incompréhensible pour l'homme. Toutefois, Dieu se révèle par son nom de miséricorde. Le nom de miséricorde est « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ». Et ce nom indique tout ce que Dieu a fait pour l'homme. Donc, l'incarnation, pour Augustin, devient comme la concrétisation par excellence du nom de miséricorde. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a un livret, un article de Gilson sur cet aspect. Lui, il est le premier à avoir étudié ces aspects dans Augustin. Or, la miséricorde la plus grande pour Augustin est l'incarnation. On est au milieu de notre feuille de route. Et Augustin dit, « Quelle miséricorde plus grande que de nous donner son Fils unique, pas seulement pour vivre avec nous, mais pour mourir pour nous. » Il est vraiment émerveillé face à ce don de Dieu. Or, Augustin, pour parler de l'incarnation, utilise plusieurs images. Et une de ces images est l'image de la poule, et on la trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, 37. Et on va le voir un peu plus en gros. Et il dit, pour rassembler sous ses ailes les petits de Jérusalem, il s'est revêtu de l'infirmité de notre chair, imitant là l'exemple de la poule qui se fait petite avec ses petits. Et je demandais à une amie qui a des poules, et elle m'a dit effectivement, et quand la poule a des petits, elle est toute chiffonnée, toute à moitié morte. Elle m'a expliqué pourquoi, parce que pendant le temps qu'elle couve les œufs, elle ne bouge pas, pratiquement elle ne mange pas, elle est toute pour ses petits. Elle s'éloigne un petit moment et puis elle retourne chez les œufs pour le faire, pour faire naître le poussin. Et donc à la fin de la couvée, eh ben, elle est épuisée. Et donc on la voit qu'elle a eu des petits parce qu'elle s'est donnée totalement pour ce petit. Donc, c'est vraiment vrai. Voilà. Et encore, et il continue dans ce texte, il dit, « Comme fait une poule pour ses petits, ainsi a-t-il rassemblé toutes les nations en se faisant faible pour nous, en empruntant au genre humain l'infirmité de la chair, en se laissant crucifier, mépriser, souffleter, flageller, attacher au bois de sa croix et percer d'un coup de lance. » En tout cela, nous devons voir l'effet de sa tendresse de mère pour nous. et non pas la preuve de la perte de sa puissance souveraine. C'est important pour Augustin de souligner que l'incarnation, c'est pas une perte de puissance, c'est pas Dieu qui s'abaisse et qui perd quelque chose de lui, mais par contre, tout est là, voilà. Voilà. Toute la puissance de Dieu dans la faiblesse de l'homme. C'est le mystère de l'incarnation. Et il y a une autre image que Augustin utilise pour l'incarnation, c'est le bon samaritain. Le bon samaritain était le point de vue étymologique qui signifie gardien. Et vous le trouvez dans la feuille de route. Le samaritain qui vient à passer le prend en pitié, celui qui avait été tapé par les voleurs. Et c'est le Seigneur même qui a pitié du genre humain. Donc, le bon samaritain, c'est d'abord Jésus qui s'incarne et qui nous rejoint dans notre humanité blessée et nous recueille et nous aide à repartir. Il y a plusieurs textes, j'en cite un autre. Le Seigneur est proche, in proximo. Qui donc est si lointain et si proche, sinon celui qui s'est fait proche par miséricorde? Et encore, le Verbe s'est fait chair pour être aussi mon prochain. Je trouve que c'est très beau parce que ça donne l'idée qu'il est mon prochain, donc moi je peux exercer l'amour envers le prochain, c'est envers Dieu, Jésus, envers Dieu, mais aussi lui pour être mon prochain dans le sens que c'est lui qui s'est fait proche de moi. Et c'est beau, enfin. Et un autre texte où Augustin dit « Oui, c'est pour toi que Dieu s'est fait homme, et s'il n'était pas né dans le temps, éternellement tu serais morte. Jamais tu ne serais délivrée de cette chair de péché s'il n'en avait pris la ressemblance. S'il ne te faisait une si grande miséricorde, tu serais livrée à une misère sans fin. Tu n'aurais point recouvré. » Or, pour Augustin, c'est vraiment quelque chose de magnifique, de merveilleux, cette incarnation, et au point que dans un texte il utilise comme un refrain cette expression « quelle miséricorde plus grande ». Et il dit donc « quelle miséricorde plus grande peut-on désirer, demander, exiger que celle qui fait que Dieu n'épargne pas son propre fils mais le donne pour nous tous, pour nous donner tout avec lui ». Ça fait écho à Romains 8. Et puis encore, quelle miséricorde plus grande que de venir mourir non pas pour les justes, mais pour les impies. Et encore, quelle miséricorde plus grande que de venir et de ne pas condamner ceux qui étaient dignes d'être condamnés, mais de libérer ceux qui étaient indignes d'être libérés. On trouve ce texte dans le sermon d'Olbo, 14, qui correspond au sermon 352a. Bon, ce sont des textes très forts et on peut se demander aussi, Dieu nous fait cette miséricorde et nous, quelle miséricorde pouvons-nous faire? Augustin dépasse l'idée d'une miséricorde exercée par philanthropie ou bonne volonté. Il en donne une motivation théologique, le Christ. Et c'est une des plus belles découvertes que j'ai fait dans Augustin, et cette aumône miséricorde du Christ, c'est le texte d'un sermon. Aumône, Augustin le sait, en grec signifie miséricorde, celle qui a donné une nature d'esclave au maître du monde, condamné le pain même à avoir faim, la plénitude à avoir soif, réduit la puissance à la faiblesse, la santé à la souffrance, la vie à la mort. Et cela, pour apaiser en nous la faim, étancher la soif, soulager nos souffrances, éteindre l'iniquité, enflammer la charité. Quelle miséricorde plus grande que de voir le Créateur devenir créature, le Maître se faire esclave, le Rédempteur se laisser vendre, que de voir encore si profondément abaisser celui qui élève tout et mis à mort celui qui ressuscite les morts. Or, il nous est commandé, pour faire l'aumône, de donner du pain à celui qui a faim. Mais lui, pour se donner à nous comme nourriture, s'est d'abord livré à la fureur de ses ennemis. Et encore, il nous est commandé d'accueillir l'étranger. Et lui, venant chez lui-même, n'a pas été reçu par les siens. Ainsi donc, faisons des aumônes d'autant plus larges et plus fréquentes que nous approchons davantage du jour où nous célébrons l'aumône immense que nous avons reçue. C'est l'aumône de l'incarnation et de la passion, mort et résurrection du Seigneur, du mystère pascal finalement. Et donc cela donne un sens très fort à ce qu'est une motivation très profonde pour faire miséricorde aux autres. Et Augustin parle aussi d'un autre genre de miséricorde, miséricorde envers soi-même. Et sur le thème, j'ai pu travailler un article dans la revue des études augustiniennes. Et Augustin s'inspire pour parler de ce thème d'un verset de Siracide, « Prends pitié de ton âme en plaisant à Dieu », 30-24, Siracide, qui toutefois n'est pas présent dans nos Bibles modernes, parce que Augustin s'est basé sur une version de sa Bible qui venait du grec et donc n'était pas à partir de l'hébreu. Et ce verset est décalé et complètement différent. Mais enfin, on a la chance d'avoir un commentaire magnifique de ce verset. Et Augustin le commente en disant « Que signifie l'aumône, la miséricorde ?» Il dit « Prête l'oreille au langage de l'Écriture. Aie pitié de ton âme pour te rendre agréable à Dieu. Fais l'aumône, prends pitié de ton âme pour te rendre agréable à Dieu. » Qu'est-ce que se rendre agréable à Dieu ? Augustin note que cette âme est devant toi comme une mendiante. Rentre en toi-même, toi qui vis mal, toi qui vis dans l'infidélité. Rentre en ta conscience. Tu y trouveras une âme qui mendie, une âme qui est dans le besoin, dans la pauvreté, dans l'affliction. Et si tu ne le crois pas dans le besoin, c'est que le besoin même lui ôte la force de parler. Car lorsqu'elle demande, c'est qu'elle a encore faim de la justice. Si donc tu trouves ton âme en cet état, fais-lui d'abord l'aumône, donne-lui du pain. Quel pain ? Celui qui te parle. Ah, si tu l'écoutais, si tu le comprenais, si tu croyais au Seigneur, lui-même te dirait « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Ne commencerais-tu pas alors par donner ce pain à ton âme et par lui faire l'aumône ? Si donc tu as la foi, tu dois d'abord le montrer en nourrissant ton âme d'abord. Voilà. Et Augustin donc voit cette miséricorde envers soi-même comme une conversion qu'on fait, et on se retourne vers Dieu. Et il invite à ne pas différer cette miséricorde, à ne pas avoir du retard. Il dit ainsi, ne remets pas et ne ferme pas la porte ouverte devant toi. C'est l'auteur même du pardon qui t'ouvre cette porte. Que tardes-tu ? Tu devrais être comblé de joie si tu frappais et qu'il t'ouvrit enfin. Tu ne frappes pas et il t'ouvre. Et tu restes dehors. N'hésite donc pas. On vient de conclure l'année de la miséricorde. Enfin, il y a encore quelques jours ouverts à Rome. Donc, on parle de porte. Augustin aussi en parle. Cette porte ouverte. Je pense que puis la porte du cœur de Dieu est toujours ouverte. Mais enfin, ce sont des démarches importantes et... Et c'est beau de penser que c'est Dieu qui ouvre la porte. Nous n'avons qu'à entrer. C'est le fameux « nous n'avons qu'à faire » qui ça prend le plus d'efforts. Or, Augustin continue et il dit « Tu connais ce commandement de ne pas ajourner la miséricorde envers autrui et en différant, tu te montres cruel envers toi-même. » Tu ne dois mettre aucun retard lorsqu'il s'agit de donner du pain et tu en mets lorsqu'il s'agit de recevoir ton pardon. Même pas le demander, le recevoir. Si tu n'ajournes point ta pitié pour autrui, prends aussi, pour plaire à Dieu, compassion de ton âme. Donc, il conclut, fais aussi l'aumône à cette âme, non pas précisément en lui donnant, mais en ne repoussant pas la main qui lui donne. Donc c'est vraiment se mettre devant Dieu et accueillir ce qu'il a à nous donner, que c'est sa miséricorde, son accueil total. Voilà, il y a un autre point, on avance, et il y a sacrifice et miséricorde. Et je rappelle que sacrifice, du point de vue étymologique, signifie faire quelque chose de sacré, sacrum facere. Et pour nous, peut-être, évoque souvent quelque chose de difficile à devoir faire, un peu par devoir, un peu pour supporter quelque chose de difficile, donc quelque chose qui ne donne pas du tout de la joie. Et ça m'a beaucoup frappé de découvrir que pour Augustin, la miséricorde est le vrai sacrifice. Qu'est-ce que le vrai sacrifice? Le vrai sacrifice, dit Augustin dans la Cité de Dieu, c'est toute œuvre accomplie pour s'unir à Dieu d'une sainte union, c'est-à-dire toute œuvre qui se rapporte à cette fin suprême et unique, c'est-à-dire Dieu, où est le bonheur. Donc sacrifice égale bonheur, parce que sacrifice c'est ce qui nous unit à Dieu. Et pour Augustin, la miséricorde est le vrai sacrifice, c'est ce qui nous remet en relation avec Dieu, nous remet en communion même avec lui. Et ce texte, vous l'avez dans la feuille de route. Or, dans la Cité de Dieu, il continue, au chapitre 10, au livre 10, il dit « C'est pourquoi la miséricorde même envers le prochain n'est pas un sacrifice si on ne l'exerce en vue de Dieu. » Et le sacrifice, en effet, bien qu'offert par l'homme, est chose divine. Aussi, l'homme même, consacré et voué à Dieu, est un sacrifice en tant qu'il meurt au monde pour vivre en Dieu. Car cette consécration fait partie de la miséricorde que chacun exerce envers soi-même. Et c'est pour cela qu'il est écrit « Aie pitié de ton âme en te rendant agréable à Dieu ». Et cet aspect touche aussi aux œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde rapportées à Dieu sont des vrais sacrifices envers nous-mêmes ou envers le prochain. Et elles n'ont d'autre fin que de nous délivrer de toute misère et de nous rendre bienheureux. Ce qui ne peut se faire que par la possession de ce bien dont il est écrit « M'attacher à Dieu, c'est mon bien ». L'assemblée et la société des saints est elle-même un sacrifice universel offert à Dieu par le suprême pontife qui s'est offert pour nous dans sa passion. Et cela nous amène à ce qui est l'Eucharistie. Tel est le sacrifice des chrétiens, être tous un seul corps en Jésus-Christ. Et c'est ce mystère que l'Église célèbre assidûement dans le sacrement de l'autel, connu des fidèles, où elle apprend qu'elle est offerte elle-même dans l'oblation qu'elle fait à Dieu. Il y a dans une prière eucharistique, la cinquième, dans la version italienne, je n'ai pas trop vérifié dans la version française, mais où c'est dit à un certain moment, je traduis librement, « Regarde, Père Saint, cette offrande, c'est Christ qui se donne par son corps et son sang. » Et cette offrande, le corps, ce n'est pas que le corps du Christ est sur l'autel, mais c'est aussi toute l'assemblée. Donc, toute la fois que j'entends cette prière eucharistique, je repense à Augustin et vice-versa. Et je trouve que c'est d'une puissance incroyable, vraiment. Or, Augustin souligne que le Verbe s'est fait homme tout en étant Dieu. Parce qu'il a souffert pour nous, il nous a recommandé son corps et son sang dans ce sacrement. Et d'ailleurs, nous sommes nous-mêmes devenus son corps, et par sa miséricorde, nous recevons de lui ce que nous sommes. Donc cette communion, le corps, dirons le corps mystique du Christ, pour Augustin c'était le Christ total, la tête, son corps, l'Église, où vraiment ce n'est pas une figure symbolique, mais c'était vraiment pour lui une réalité. Et c'est très fort. Or, vous souvenez de ce verset « Prends pitié de ton âme pour plaire à Dieu » Augustin s'est arrêté aussi sur ce fait de plaire à Dieu. Et ce plaire à Dieu donne le sens de la miséricorde envers le prochain. Et c'est... On a fait deux routes. et la première miséricorde de l'homme fidèle et envers soi-même, selon ce qu'ordonne l'Écriture en disant « Prends pitié de ton âme en te rendant agréable à Dieu ». Et cela s'étend au prochain, pour accomplir le commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». La vraie miséricorde exercée vers le prochain est faite avec le but qu'il se rende agréable à Dieu. C'est dans ce but qu'il faut appeler, exhorter, dégrossir, instruire. Donc ce n'est pas tout simplement pour aider. Ça, on le fait, le font aussi les assistants, les ONG, toutes les choses laïques, il n'y a pas de souci, mais la miséricorde chrétienne a le but de rendre agréable à Dieu la personne envers laquelle on l'exerce. Et ça donne vraiment du sens, un sens profond à cette miséricorde. Et en effet, Augustin continue, même les aumônes qu'on fait pour soulager les nécessités corporelles de la vie temporelle doivent être faites dans l'esprit et l'intention que c'est ceux envers qui elles sont faites aiment Dieu. Finalement, à travers le bien que nous faisons, les autres devraient élever leur cœur à Dieu. Et c'est tout à fait évangélique. Et on est miséricordieux envers le prochain quand on fait toute œuvre possible afin que l'autre aussi puisse de même jouir de la douceur de plaire à Dieu. Donc aimer Dieu, ça signifie jouir de cette de la douceur de lui plaire. Voilà. Et c'est dans un sermon récemment découvert, hein, il y a peu d'années, c'est le sermon Erfurt 2. C'est un sermon tout sur la miséricorde envers soi-même et sur la miséricorde envers les autres. Or, Augustin, dans son œuvre, utilise beaucoup d'images. Et une de ces images est le pont de la miséricorde. C'est le pont, au sens propre, établit un lien entre deux lieux qui seraient autrement isolés et permet de passer de l'un à l'autre. Et de même, la miséricorde établit un lien entre Dieu et la misère de l'homme pour permettre à l'homme d'en sortir. Il y a des textes très explicites chez Augustin à ce propos. Tout homme, avant la conversion, bénéficie de ce pont. C'est important de le dire. Et Augustin, dans un sermon, dit « Tu trouveras peut-être qu'un jour tu fus voleur, qu'un autre s'en prit à Dieu de ce que tu survivais à ton vol, de ce qu'il ne te faisait point mourir. Mais de même que dans ta faute le Seigneur t'a épargné, t'a laissé vivre afin qu'à l'avenir tu ne fuisses plus voleur, ne cherche point après ton passage à détruire le pont de la divine miséricorde. Ne sais-tu pas que beaucoup doivent passer par où tu as passé toi-même ? Existerais-tu maintenant pour murmurer s'il eût écouté ceux qui murmuraient jadis contre toi ? » Augustin met toujours ses fidèles en face de ce que Dieu a fait pour eux, pour eux-mêmes. Donc, c'est rendre ce qu'on a reçu finalement. Et donc, se rendre compte d'avoir bénéficié de ce pont devient une exhortation à la patience. Et n'est pas prier pour la mort de l'ennemi, mais attendre avec Dieu qu'il se convertisse et qu'il vive. Donc nous retrouvons encore ici la distinction entre le péché et le pécheur. Et ce pont de la miséricorde peut être vu comme une porte ouverte pour chacun de nous vers un autre genre de vie et par la conversion. C'est à ce point-là que l'homme se rend compte que Dieu est vraiment sa miséricorde. Comme dit le psaume, Dieu, tu es ma miséricorde. Augustin dit, le commente en disant, comblé des bienfaits du Seigneur, le psalmiste ne sait quel nom lui donner, il ne sait que l'appeler sa miséricorde. Qu'est-ce dire, tu es ma miséricorde? Tout ce que je suis est un don de ta miséricorde. Mais l'ai-je mérité par tes prières? Tu es mon Dieu, tu es ma miséricorde. C'est tout à fait gratuit. C'est dans un commentaire de psaume. Or, on va arriver aux conclusions. Et il y a sont en trois parties, l'une plus courte de l'autre. Et la première est un peu plus une révision en général de ce qui est la miséricorde pour Augustin. un peu aussi à partir de ce qui a été mon travaux de thèse, que là, la version italienne est publiée. Et la deuxième partie se fera un peu plus côté spirituel. La troisième, ça va être plus contemplatif. Et donc, si on veut résumer un peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, l'habitat naturel de la miséricorde est le plan de salut de Dieu. La miséricorde soulage les différentes formes de misère qui pèsent sur l'homme, qu'il s'agisse de misères humaines ou spirituelles. Et elle conduit l'homme à la vie éternelle avec Dieu. La miséricorde devient comme une communion à la résurrection de Dieu, de Jésus, communicatio resurrectionis. Et là, j'ai eu l'occasion de l'étudier dans un article en italien, malheureusement pour vous. Et si vous ne connaissez pas l'italien, mais aussi dans ma thèse, je l'ai étudié. Et à travers plusieurs textes, on n'a pas abordé la question ce soir, mais j'ai pu aussi me rendre compte que miséricorde, c'est différent de l'amour, et parce que par miséricorde, Dieu se révèle à l'homme et se révèle comme amour. Donc on peut distinguer entre les deux notions. Et ce sont des distinctions, bien sûr, qu'en Dieu tout coïncide. Enfin, nous pouvons en percevoir des facettes, c'est un grand mystère. Voilà. Et aussi, la miséricorde peut être distinguée de la grâce. À l'origine de la grâce, qui est gratuite, par définition, il y a la miséricorde de Dieu. Et la grâce, c'est pour l'homme la capacité de se convertir, de changer de vie, de retrouver la communion avec Dieu. Et ce qui est miséricorde de Dieu devient grâce pour l'homme. Donc elle est perçue comme grâce pour l'homme. Et, mais on peut dire que c'est une façon différente de percevoir les choses. Voilà. Ensuite, on peut donner une définition, si on veut l'hasarder. Enfin, la miséricorde est ce par quoi Dieu se révèle à l'homme pour le rendre la pleine communion avec lui. Ça, c'était ma conclusion pour ce qui concerne la miséricorde de Dieu. Ce par quoi Dieu se révèle à l'homme pour le rendre la pleine communion avec lui. Donc, il y a la révélation et le but, qui est la pleine communion avec Dieu. Et de même, nous avons que la miséricorde trouve sa plus haute expression dans l'incarnation du Christ, qui est la plus grande miséricorde, la maior misericordia, et vrai sacrifice, et culmine dans l'Eucharistie. Vous avez ce texte dans la feuille de route. Et cet aspect a été étudié dans l'article, dans mon article dans la Nouvelle Revue Théologique que Père Alban a mis à disposition dehors. Donc, si ça, ce thème vous touche, il y a des très beaux textes dedans. Non, c'est Augustin est vraiment bien. Donc, c'est l'incarnation qui culmine dans l'Eucharistie. Voilà. Et on a vu la miséricorde de Dieu, on se demandait alors la miséricorde de l'homme, et je la définirais de cette façon. Je dirais que c'est tout geste ou façon de faire que l'homme a envers soi-même ou envers le prochain, ayant en vue la communion avec Dieu. Ce texte aussi, vous l'avez dans la feuille de route. Et donc le but est toujours la communion avec Dieu. Jouir de l'amour de Dieu à plein. Voilà. Et Augustin a des originalités, on en a vu quelques-unes, pas toutes. On a parlé du temps de la miséricorde et du temps du jugement. Et c'est une originalité d'Augustin. Et aussi, il utilise une image de deux murailles quand il parle du binôme miséricorde-vérité. Là, on n'a pas abordé ce soir. Et puis aussi le thème de la miséricorde céleste, la communion à la résurrection du Seigneur. Et ensuite, il y a aussi le thème de la loi de la miséricorde, qui pour Augustin est la prière du Notre Père, est vu comme un pacte avec Dieu, ou la loi nouvelle donnée par le Christ, et dans laquelle le pardon entre l'homme et Dieu et entre les hommes est fondamental. Et puis, l'original, il y a aussi l'utilisation de beaucoup d'images, un peu tirées aussi de la Bible, mais parfois, comme celle du pont qui a utilisé lui librement, pour illustrer la miséricorde dans le plan de salut des dieux. On a la pluie, le parfum, la main, le pont, le regard, la voix, l'écoute, les ailes, le torrent. Et encore, il y a les images de la miséricorde de Jésus qu'on a vu, la poule, le bon samaritain, et on n'a pas vu le médecin, on le devine. Donc cela finit les conclusions plus philosophiques et plus d'études. Et je vous laisse un dernier texte, prière, comme conclusion. Et je le trouve comme une élévation du cœur qu'Augustin a adressé à Dieu, à sa miséricorde. Et on peut y retrouver dans ce texte qu'on va lire l'idée qui a été le fil rouge des textes présentés, c'est-à-dire « Je t'ai fait pour moi et mon cœur est inquiet jusqu'à ce que tu reposes en moi ». Et en lien avec le texte précédent, le texte précédent qu'on a vu, Dieu pourrait continuer en disant « Et maintenant ma joie est pleine, car tu as reconnu que je suis ta miséricorde. Entre dans ma joie. » Et ce texte, je vous le vois en plus grand ici. « Je t'invoque, mon Créateur, mon Dieu et ma miséricorde, qui a gardé mon souvenir quand j'avais perdu le tien. » Je t'appelle dans mon âme, et tu la prépares à te recevoir, en lui inspirant ce vif désir de ta possession. Oh, réponds aujourd'hui à cet appel que tu as devancé, quand tes cris réitérés, venant de si loin à mon oreille, me pressaient de me retourner et d'appeler à moi celui qui m'appelait à lui. Seigneur, tu as effacé tous mes péchés, afin de n'avoir point à solder les œuvres de mon infidélité. Et tu as prévenu mes œuvres méritantes afin de me rendre selon le bien opéré en moi par tes mains, dont je suis l'ouvrage. Car tu étais avant que je fusse, et je n'étais rien à qui tu pouvais donner d'être. Et me voilà toutefois. Je suis par ta bonté qui a devancé tout ce que tu m'as donné d'être, tout ce dont tu m'as fait. Tu n'avais pas besoin de moi, et je ne suis pas tel que ce peu de bien que je suis de ce monde, mon Seigneur, mon Dieu. Que mes services te soulagent comme si tu t'es lassé en agissant. Que ta puissance souffrit de l'absence de mon hommage. Que tu réclamais mon culte comme la terre réclame ma culture, sous peine de stérilité. Mais tu veux mes soins, tu veux mon culte, afin que je trouve en toi le bien de mon être. Car tu m'as donné l'être qui me rend capable de ce bien. C'est un texte dans le 13e livre des Confessions. Et là, la conclusion plus contemplative, un petit dessin qui dit tout. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Donc, voilà, et il y a aussi un peu de bibliographie si vous êtes intéressé, il parle allemand à tout, mais je pense que c'est mieux, c'est l'heure en plus, c'est mieux rester avec cette image qui donne de quoi prier. Voilà. Merci beaucoup.